France Culture, il est midi et demi. La voix des journalistes de la rédaction et du journal d'Antoine Mercier qui sont entrés dans ce studio. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les neurosciences au service de l'éducation. Jean-Michel Blanquer installe aujourd'hui un conseil scientifique qui sera dirigé par le professeur de psychologie cognitive Stanislas Dehaene. Explication dans un instant avec Xavier Demagny. Emmanuel Macron conclut sa première visite en Chine sur un appel à la cohésion des Européens face, dit-il, à la puissance de feu de Pékin. Bilan du déplacement avec Julie-Marie Lecomte. Le chef de l'État sera ce soir à Rome. Sommet des dirigeants de 7 pays de l'Union européenne, du sud de l'Union européenne, consacré aux défis migratoires. Dossier et enjeu avec Marie-Pierre Véraud. De nouveaux heurts ont éclaté dans la nuit en Tunisie. Des dizaines de blessés, plus de 200 arrestations des troupes suscitées par la grogne sociale qui est amplifiée par de récentes mesures d'austérité, analyse de Nadine Epstein. Et puis des militantes féministes répondent ce matin à la tribune publiée dans Le Monde hier, pétition qui défendait, on s'en souvient, la liberté des hommes d'importuner. Le contre-texte accuse les premières signataires de vouloir refermer la chape de plomb soulevée par le scandale Weinstein. Compte rendu de tout ce débat avec François-Pierre Noël dans cette édition. On en parlera aussi sans doute avec l'invité de la séquence interview, Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis dans la dernière partie de la grande table, Olivier Jesbert.
Il nous invite à poser un regard calme sur les musulmans de France. Il y a quand même aujourd'hui, selon lui, une bataille culturelle à mener, celle de l'islam contre le fondamentalisme. Hakim El Karoui, qui est essayiste et entrepreneur, est notre invité. Il sera avec nous à partir de 12h55.
Les neurosciences donc vont être mises au service de l'éducation. Jean-Michel Blanquer installe aujourd'hui même un conseil scientifique. Et c'est un conseil scientifique qui sera donc dirigé par le célèbre professeur de psychologie cognitive Stanislas Dehaene, qui va se pencher notamment sur le contenu des formations enseignantes, mais aussi sur les manuels scolaires. Interview au Figaro ce matin, donc du ministre de l'Éducation, qui regrette que l'arrivée des sciences cognitives suscite des réactions parfois défensives. Il soutient que c'est par des approches pluridisciplinaires que nous pourront nourrir nos réflexions. Xavier Demagny, bonjour.
Bonjour.
Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il s'agit d'introduire concrètement dans les méthodes d'éducation
et de pédagogie? Tout va s'orienter autour de cette maxime de Stanislas Dehaene. Enseigner est une science, dit-il. C'est sur des preuves que ce conseil scientifique dit vouloir se baser pour proposer de nouvelles méthodes, de nouveaux contenus. Des objectifs ont déjà été fixés. L'étude de la formation des enseignants, comment apprendre à bien apprendre. Ce conseil scientifique veut aussi établir un socle des connaissances que tout professeur doit maîtriser. Comment mesurer aussi les progrès des élèves? Les tests en CP par exemple sont-ils efficaces? Enfin, quels outils pédagogiques utiliser? Cela pose notamment la question des manuels scolaires. Alors pourquoi Stanislas Dehaene? Parce que ce chercheur en sciences cognitives a une approche pluridisciplinaire à la croisée des chemins, explique le ministre de l'Éducation nationale. C'est un scientifique reconnu dont les travaux sur le cerveau effectivement sont reconnus de tous et qui a écrit de nombreux ouvrages, notamment sur le domaine de l'apprentissage de la lecture.
Alors après l'annonce de la création de ce conseil, c'était en novembre, il y avait une cinquantaine de chercheurs qui s'étaient inquiétés que cette discipline, donc les neurosciences, puisse s'imposer finalement au détriment d'autres éléments ou d'autres mouvements pédagogiques. Sur quoi se fondaient ces réticences?
Et bien justement sur cette possible suprématie des neurosciences qui inquiète donc les chercheurs que vous évoquez, parmi eux le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, Michel Lussault, qui est l'ancien président du Conseil supérieur des programmes, ou bien le professeur en sciences de l'éducation Philippe Mérieux. Ils craignent une instrumentalisation, une mauvaise interprétation des travaux scientifiques et donc un apprentissage par exemple de la lecture, un apprentissage trop mécanique, trop systématique. Pour tenter de les rassurer, le ministre Jean-Michel Blanquer rappelle que ce conseil scientifique est pluriel et divers. Parmi les 21 membres, on trouve des philosophes, des sociologues, des linguistes et des mathématiciens. Tout ça pour dire que tout le monde aura voix au chapitre.
Xavier Demagny, merci bien. Dans l'actualité sociale encore, les syndicats de la chaîne de prêt-à-porter féminin Pinky qui rejettent le projet de rupture conventionnelle collective présenté la veille par la direction, qui juge ce dispositif insuffisant. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, affirme ce matin sur RTL que cet échec est un parfait exemple de l'équilibre entre flexibilité et protection des salariés qui était souhaité par la réforme du Code du travail. Et puis Benjamin Griveaux évoque aussi ces lettres de licenciement, ces 6 lettres types de licenciement qui ont été publiées dans un décret du 30 décembre et paru au journal officiel, décret relatif à la loi travail, donc qui contient 6 lettres types de licenciement mentionnées ce matin par le Canard enchaîné, qui porte sur différents motifs disciplinaires pour inaptitude, non disciplinaire, économique, individuelle, pour les petits ou les grands licenciements. Le porte-parole du gouvernement affirme que le gouvernement entend simplement faire de la pédagogie, mais pas tenir la main des patrons. Il était ce matin donc au micro de RTL.
Le code du travail français est un code du travail important, qu'il y a beaucoup de procédures qui sont faites devant les tribunaux et que l'objectif, c'est de simplifier la vie à la fois des entreprises, de simplifier aussi les procédures qui peuvent être engagées et de simplifier aussi la compréhension pour les salariés, pour tout citoyen. Jusqu'à présent, on avait quand même un code du travail qui était incompréhensible parfois pour les entreprises et très souvent pour les salariés qui ne comprenaient pas non plus les protections dont ils bénéficiaient.
Ce sont des modèles de lettre de licenciement pour motif personnel non disciplinaire, pour motif disciplinaire,
j'ai
pour motif
compris.
Économique. Vous leur tenez la main, vous seriez des avocats qui en auraient demandé.
Nous ne leur tenons pas la main, nous donnons les moyens.
De les border juridiquement pour qu'ils ne soient pas ensuite contestés par les salariés, que ce ne serait pas différent.
Nous ne leur tenons pas la main, nous expliquons, nous faisons de la pédagogie et nous donnons les moyens aux entreprises de mettre en place les dispositifs qui sont prévus dans la loi et aux salariés également vient d'en prendre pleinement connaissance. Vous voyez que rien n'est caché, tout se fait de manière très transparente.
De manière transparente, disait Benjamin Griveaux, c'était avec Elisabeth Martichoux. Emmanuel Macron a conclu ce matin sa première visite en Chine sur un appel à la cohésion des Européens face à ce qu'il appelle la puissance de feu de Pékin, visite de 3 jours, donc largement dominée par l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. C'est un gigantesque projet d'investissement dans les infrastructures à destination de l'Europe qui fait parfois craindre d'ailleurs de voir le régime communiste étendre ainsi son influence politique vers l'Ouest. Bilan de ce déplacement avec notre envoyée spéciale Julie-Marie Lecomte.
Ce que les Chinois retiendront peut-être en premier, c'est que contrairement à d'autres dirigeants européens, Emmanuel Macron ne condamne pas le cœur de leur politique économique, ce que Xi Jinping appelle les nouvelles routes de la soie. Cette grande entreprise de projection en dehors de leurs frontières, des projets pharaoniques de routes, de rails, de liaisons maritimes vers l'Afrique, l'Europe et le reste de l'Asie. Beaucoup y voient une volonté d'expansionnisme dangereux. Emmanuel Macron marque sa différence.
Cette initiative est structurante, elle est forte sur le plan économique et diplomatique. Elle est forte dans sa part d'imaginaire embarqué et elle ne peut être ignorée.
Pas question pour autant de jouer les naïfs. Pendant 3 jours, Emmanuel Macron aura répété sur tous les tons qu'il veut une relation équilibrée, qu'il veut de la réciprocité. Sa délégation de chefs d'entreprise quitte le pays après avoir signé une 20aine de contrats que l'Élysée ne chiffre pas, mais c'est une volonté délibérée.
Si je reprenais la chronique des montants que nous avons parfois déclinés, il y a parfois quelques décalages. D'autres se sont mis fortement dans cette compétition, pensant que c'était le mantra de la relation bilatérale. Pour ma part, j'ai préféré une méthode qui consiste justement à débloquer humblement, à lister tous les sujets et, en quelque sorte, à demander des résultats que nous allons vérifier.
Ce qui n'empêche pas son entourage d'annoncer juste avant son départ la commande de 184 Airbus. Sur le plan politique, ce que l'on retiendra aussi, c'est que comme il a pu le faire par exemple en Afrique, Emmanuel Macron a profité de ce séjour à l'étranger pour s'affirmer comme le leader de l'Europe.
Au moment où les États-Unis doutent de leur engagement climatique, remettent en cause des équilibres du commerce international, ou peuvent parfois s'avérer inattendus sur la résolution de certaines crises régionales vitales pour la sécurité collective, la France est là et avec elle l'Europe comme un partenaire stable mais qui doit être plus uni.
L'Europe est de retour, tweetait Emmanuel Macron pendant son séjour. L'Europe, c'est moi. C'est ce qu'il a largement fait comprendre à Xi Jinping.
Voilà, l'Europe, c'est moi. C'est une variation du célèbre dicton. En tout cas, la question du respect des droits de l'homme en Chine a été évoquée par le président qui a entendu assumer sa position et qui n'a assumé sa position de ne pas évoquer publiquement le dossier. Je peux me faire plaisir en donnant des leçons à la Chine, avait-il dit, donc en parlant à la presse française. Ça s'est beaucoup fait, mais ça n'a pas eu de résultat. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour.
C'est une position sur les droits de l'homme du chef de l'État qui n'est pas forcément d'ailleurs applicable ou déclinable à d'autres régime parfois moins puissant.
Il y a quelques jours seulement, l'on a encore en tête la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan à Paris, visite décriée par plusieurs ONG car c'est l'homme qui est associé à la plus grande purge de la Turquie moderne. L'Élysée, où il était reçu, a parlé de discussions franches entre les deux hommes, mais Emmanuel Macron a jugé lors d'une conférence commune, donc devant son interlocuteur, que les développements concernant l'état de droit dans ce pays excluaient l'ouverture de nouveaux chapitres de négociations conditions d'adhésion à l'UE dans les prochaines années et qu'il fallait sortir sur ce sujet de l'hypocrisie. Pas tout à fait le même traitement pour le président égyptien El-Sissi, tout aussi pointé du doigt pour la répression qu'il mène officiellement dans le cadre de la lutte antiterroriste. Là, Paris a dit ne pas vouloir donner de leçons, ce qu'un responsable de Reporters sans frontières a appelé un silence assourdissant. Autre situation, la venue en France du président russe, c'était en mai dernier, et cette conférence de presse commune au château de Versailles, où Emmanuel Macron a parlé d'un dialogue sans concession sur tous les sujets. Il a rappelé l'attachement de la France au respect des minorités et du droit des personnes dans la société civile, évoquant également la situation des LGBT. Devant un Vladimir Poutine au visage fermé, le chef de l'État français a parlé au passage de médias russes à l'origine de fake news. Alors ce n'est pas forcément une histoire de puissant ou moins puissant, mais peut-être une question d'intérêt régional ou de rapport de force du moment entre deux pays. Et il faut dire que la visite du chef du Kremlin en France avait lieu juste avant l'élection présidentielle en France, donc, et il y avait peut-être là déjà un malaise lié à la position russe dans la campagne électorale française.
Nabila Hamel, merci bien. Le chef de l'État sera en tout cas ce soir à Rome. C'est un sommet des dirigeants des 7 pays du sud de l'Union européenne. Il s'agit de l'Italie, de la France, de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, de Chypre et de Malte qui doivent évoquer une nouvelle fois le défi migratoire auquel beaucoup d'entre eux sont confrontés. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Antoine.
Situation illustrée encore hier dramatiquement par ce nouveau naufrage. C'est au large de la Libye, une centaine de migrants qui sont portés disparus et sans doute morts.
Il était, semble-t-il, en effet plus d'une centaine, jusqu'à 150 selon les témoignages des survivants, entassés sur un canot pneumatique qui a chaviré au large des côtes libyennes à une centaine de kilomètres à l'est de Tripoli. 17 seulement ont pu être secourus, dont des femmes et des enfants qui étaient restés accrochés pendant plusieurs heures à des morceaux de leur embarcation. Déjà dimanche dernier, une dizaine de migrants s'étaient noyés au large de la Libye, plus d'une cinquantaine d'autres portés disparus, parmi lesquels de jeunes enfants. Tous étaient là entassés dans un canot en bois. Le coordinateur des secours de SOS Méditerranée alerte sur des affrontements armés en plusieurs points de la côte libyenne, ce qui crée une situation chaotique. L'hiver ne dissuade donc plus des centaines de migrants de tenter la traversée. Et l'on sait que l'Europe, par ailleurs, entrave l'accès des eaux aux navires des ONG qui jusqu'alors patrouillaient pour secourir les embarcations en détresse. La Méditerranée continue donc d'être la frontière la plus meurtrière au monde. Plus de 3400 morts en 2017, un chiffre sans doute sous-estimé.
Rencontre aujourd'hui à Rome, donc quatrième du genre. La première avait été initiée, c'était en septembre 2016, par le Premier ministre grec Alexis Tsipras. Quelles sont maintenant les pistes étudiées? De quoi discute-t-on?
Oui, depuis, deux autres réunions avaient suivi ce premier mini-sommet, hein, en janvier 2017 à Lisbonne, puis en avril dernier à Madrid. Ce sera donc une première pour Emmanuel Macron. Et une fois de plus, la solidarité européenne seront à l'épreuve. La Grèce comme l'Italie, dans une moindre mesure l'Espagne, sont des pays de premier accueil qui attendent et demandent un partage aux autres partenaires européens. En Grèce, depuis l'accord passé avec la Turquie, les arrivées ont fortement diminué. Elles ont été divisées par 10 en 2017. Mais il reste tout de même plus de 60 000 migrants sur le continent et dans les îles, dans une situation dramatique. En Italie aussi, les accords très controversés conclus avec la Libye ont diminué fortement les arrivées, qui ont été divisées par 3 l'année dernière. Elles augmentent en revanche en Espagne. De 6 000 en 2016, elles sont passées à 23 000 l'an dernier. Alors, on parlera bien sûr secours en mer, mais surtout partage financier de l'accueil des migrants. L'Italie estime ne pouvoir seule assumer cette charge financière, a-t-elle dit. Mais il sera aussi question de la gestion de l'asile des dizaines de milliers de demandeurs d'asile, alors que l'Europe avance un ordre dispersé et ne dispose toujours pas d'une politique commune.
Marie-Pierre Véraud, de nouveaux heurts qui ont éclaté la nuit dernière en Tunisie. Il y aurait des dizaines de blessés, plus de 200 personnes auraient été arrêtées. Des troubles suscités par la grogne sociale qui persiste, qui a été amplifiée par les récentes mesures d'austérité, entrées en vigueur le 1er janvier, par exemple, d'une série de hausses des prix qui frappent le gazole, les voitures, encore les services de téléphonie, l'accès à Internet aussi décidé dans le cadre du budget 2018. Tout cela explique en partie, Nadine Epstein, l'origine de ces heurts et de ces troubles.
Oui, et le mois de janvier a souvent été en Tunisie un mois d'agitation populaire. 26 janvier 1978, le premier jeudi noir, première grève générale, le 14 janvier 2011, le départ forcé du président Ben Ali. Et en ce moment, les Tunisiens crient leur ras-le-bol, ils en ont marre de s'appauvrir et ils contestent la nouvelle loi de finances qui vient d'être adoptée par le Parlement à majorité droite libérale. Cette loi signifie pour les citoyens de la classe moyenne et des plus modestes une aggravation de leur vie quotidienne, une hausse du prix de l'énergie, de l'essence, une augmentation du prix de beaucoup de produits et 2 ou 3 points de plus pour l'inflation. Tout devient trop cher, le chômage lui aussi ne cesse de grimper et frappe en premier lieu les jeunes. 30% de Tunisiens diplômés sont sans emploi. La pauvreté touche aussi inégalement les régions. Dans le nord de la Tunisie, par exemple, une femme a récemment voulu s'immoler après la suppression d'une aide sociale. Cette mère de 5 enfants est toujours hospitalisée. Un geste de désespoir qui a mis les Tunisiens dans la rue. Une étincelle de colère qui a déclenché le mécontentement des habitants, selon le syndicat UGTT. La rue est en train de bouillir, car en termes de droits économiques et sociaux en Tunisie, 7 ans après la révolution qui a renversé la dictature, les attentes sont immenses. Il n'y a pas eu de réellement changement. En dépit des avances démocratiques, le chômage et des inégalités sociales et régionales se sont aggravées. Le risque d'explosion est là face à un gouvernement qui ne relance pas la machine économique. Certains partis politiques demandent la démission du cabinet. La population, elle, réclame un niveau de vie décent.
Merci Nadine Epstein. Peut-être un petit mot de l'invité de la dernière partie de la grande table, Hakim El Karoui, sur cette situation en Tunisie.
Oui, je vais rappeler les contraintes dans lesquelles se trouve le gouvernement. Le budget de l'État a été multiplié par 2 depuis la révolution, depuis 2011. La dette publique est passée de 45 à 70% du PIB et le modèle économique est en fait à plat. Donc ils mettent des rustines partout en augmentant les taxes. Effectivement, ça fait réagir la population. Mais en même temps, s'ils ne le font pas, le pays fait faillite. Et si le pays fait faillite, la situation sera encore pire. Donc c'est un cercle vicieux, il faut en sortir et pour ça il y a un grand problème politique, institutionnel pour recréer de l'intérêt général.
Hakim El Karoui, peut-être pas seulement en Tunisie. Hakim El Karoui, merci beaucoup. On vous retrouve dans la dernière partie de la grande table ou peut-être dans le débat qu'on aura tout à l'heure avec notre invitée Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes.
47 sur France Culture. Des militantes féministes répondent ce matin à la tribune publiée dans Le Monde et dont nous parlions hier dans cette édition. Pétition qui défendait la liberté des hommes d'importuner. Texte signé notamment par Catherine Deneuve, Catherine Millet et une centaine de femmes en général.
Oui, un contre-texte accuse donc ce matin ses premières signataires de mépriser les victimes de violences sexuelles. Bonjour François-Pierre Noël.
Bonjour Antoine.
Alors bon, voyons les arguments de ces contre-pétitionnaires.
Ces 30 militantes féministes considèrent cette défense de la liberté d'importuner comme un barrage à l'évolution des droits des femmes et cela empêche, selon elle, les consciences de s'éveiller. Sarah Chiche, l'auteur de la tribune publiée dans le quotidien Le Monde hier, souhaite offrir une autre forme de féminisme, une où il n'y aurait pas de haine des hommes après la vague de purification qui a suivi les hashtags MeToo et Balance ton porc. Dans leur réponse publiée ce matin, les militantes féministes souhaitent rappeler la réalité des choses, à savoir que chaque jour, des centaines de milliers de femmes sont victimes de harcèlement et des centaines de viols. Caroline de Haas, l'auteur de la lettre, pense que la tribune publiée hier est d'un autre temps. Elle était chez nos confrères d'Europe 1.
On retrouve en gros tous les stéréotypes, toutes les idées reçues qu'on scoltine tous les jours à la machine à café au bureau ou dans les repas de famille. Vous savez, cet oncle un peu gênant qui vous dit « mais on peut plus rien dire », etc. Ça s'appelle des idées reçues. Le fait que, je mets des guillemets, on puisse plus rien dire ou en tout cas on puisse moins dire de choses qu'avant, pour moi c'est une bonne nouvelle.
Mais la mauvaise nouvelle, c'est que les femmes ne soient pas unies dans ce combat. En ce moment, le débat fait rage là où tout a commencé, à savoir sur Twitter. D'après Caroline de Haas, cette tribune, signée par des personnalités connues comme l'actrice Catherine Deneuve, montre bien que ces femmes tentent, écrit-elle, de refermer la chape de plomb que nous avons commencé à soulever.
Merci beaucoup François-Pierre Noël pour ce sujet qui continue donc de diviser apparemment. Marlène Schiappa, bonjour.
Bonjour.
On va commencer par vous demander quelle pétition vous signez. Vous signez avec Catherine Deneuve ou avec Madame de Haas?
Alors, de façon générale, mais particulièrement là, je pense qu'il faut sortir des questions de personnes. Moi, ce que j'observe, c'est que cette première tribune dans Le Monde, c'est une espèce de pot-pourri. C'est-à-dire, il y a un peu de tout dedans. Il y a des réflexions qui ne sont pas inintéressantes, mais qui ne sont pas nouvelles non plus. La question de savoir si on doit se sentir victime et être traumatisé après un viol ou une agression sexuelle, elle a été posée dans Baise-moi de Virginie Despentes en 1993. Ça nous rajeunit pas.
Encore qu'après un viol, tout le monde est d'accord. Hein. On parlait.
Non, pas du tout. Justement, sur cette tribune, elles sont pas d'accord puisque elles disent qu'elles revendiquent le droit d'être agressées sexuellement et de ne pas être traumatisées, de ne pas être des victimes à vie pour cela.
Pour certains, c'était gestes, aussi pas le débat. Pour les viols,
non, pour les viols aussi, c'était aussi le débat qui opposait Christine Angot et Sandrine Rousseau, le fameux sur France 2. C'était est-ce qu'on est victime et est-ce qu'on revendique un statut de victime ou est-ce qu'on ne veut surtout pas être assigné à cela. Et ça, c'est un débat débat qui est intéressant et qui est un débat sémantique et intime qui porte sur le ressenti de chaque femme, et personne ne peut dicter à une autre femme son ressenti. Mais dans cette tribune, il y a aussi des choses qui sont profondément choquantes, voire fausses. Par exemple, dire éventuellement dans certains cas, peut-être qu'une agression sexuelle peut être considérée comme un délit, ce qui est dit dans cette tribune, ça n'est pas vrai. Je suis désolée, il faut dire le droit, et moi en tant que membre de gouvernement, je suis là pour rappeler ce qu'est le droit. Nous avons déjà énormément de mal à faire comprendre aux jeunes filles que se frotter contre elles, frotter un sexe d'homme contre une femme dans le métro sans son opinion, c'est une agression sexuelle, ça vaut jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 euros d'amende. On a du mal à dire aux jeunes filles qu'elles n'ont pas éprouvé de la honte et qu'elles ne sont pas coupables de cela. Donc je pense que c'est dangereux que de tenir ce discours. Et enfin, il y a des choses qui relèvent du fantasme. Dire, comme c'est écrit dans cette tribune, que des hommes auraient été renvoyés en France pour avoir touché le genou d'une femme, c'est faux. Ou alors s'il y en a un, qu'on me le présente.
Ludovic Piétonnier.
Oui, sur la question de l'égalité salariale, plusieurs auditeurs nous ont, via les réseaux sociaux, interpellés sur le manque de volontarisme politique en France depuis tant et tant d'années. Allez-vous changer la donne? Vous, Marlène Schiappa, par exemple, là où l'Islande a, dès le 1er janvier, choisi l'égalité salariale dans les entreprises de plus de 25 salariés, et puis avec des amendes à la clé en cas de non-respect. Est-ce que c'est si difficile à envisager à court terme?
Alors, non seulement c'est pas difficile, mais ça existe en France depuis 40 ans. Moi, je suis toujours assez frappée de voir que ce qui se fait à l'étranger est formidable et merveilleux. Et ce qui se fait en France, on n'en a pas connaissance.
On parle d'égalité
par
réelle,
exemple, hein, de... bien sûr, ouais. Mais là, la loi qui a été prise par l'Islande, en France, ça fait depuis les années 80 qu'il y a une douzaine de lois
qui
ont été prises, qui sont partiellement appliquées, pas assez appliquées. Je suis bien d'accord avec vous et je suis très choquée qu'il existe encore 12 à 27% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, et notamment 9% à poste égal entre un homme et une femme. Et c'est pour ça que j'étais avec Muriel Pénicaud ce matin, la ministre du Travail, et qu'on travaille très sérieusement et qu'on présentera d'ici deux mois un plan concret et dur contre les inégalités de salaire.
Excusez-moi, Hakim El Karoui, vous n'avez pas l'air d'accord ?
Non, le chiffre de 27%, enfin je parle sous votre contrôle, il faut voir comment il est construit. C'est pas à travail égal, salaire inégal, c'est quand on fait la somme des salaires des hommes et la somme des salaires des femmes, on peut arriver effectivement à 25 ou 27%. Mais c'est parce que les carrières sont différentes, parce que le niveau dans les emplois est différent, etc.
Bon, vous êtes d'accord?
Alors, il y a plusieurs choses, partiellement, mais je pense qu'on n'a pas de désaccord fondamental. Il y a 9%.
Hein, c'est juste pour ce point précis.
Non, oui, c'est pour ça que j'ai dit 12 à 27%. Il y a 9% si on prend à poste égal. À poste égal, une femme, un homme, encore 9% d'écart de salaire en moyenne. Et ça peut aller jusqu'à 27% si on prend compte les temps partiels, notamment les temps partiels subis, mais aussi, vous avez raison de le souligner, les interruptions de carrière liées notamment à la maternité, puisque dans 96% des congés parentaux, ce sont les mères qui s'arrêtent de travailler et pas les pères.
Ludovic Piétonné.
Il y a aussi ce texte que vous sortez aux éditions de l'Aube, Marlène Schiappa, avec Jérémy Pelletier, sur un autre sujet extrêmement clivant en ce moment, en tout cas un débat qui n'est clairement pas mené, on va dire, de façon apaisée dans notre société en ce moment, ce débat sur la laïcité. Vous dites dans ce petit ouvrage, tout simplement, il n'y a pas besoin d'ajouter d'adjectifs. Pourquoi s'évertuer à vouloir parler de laïcité positive ou négative? C'est une mise au clair, c'est une mise au point. Ce livre, c'est aussi la pensée d'Emmanuel Macron?
Ça fait beaucoup de questions en une, je vais essayer d'y répondre.
Bon, d'abord, écoutez, ça veut dire quoi? La laïcité,
la laïcité
point.
Pour vous.
D'abord, ouais. L'idée, c'est de dire justement qu'il n'y a pas besoin d'adjectifs. Nous, disons que la loi de 1905 se suffit à elle-même et qu'il n'y a pas besoin de qualifier la laïcité. Effectivement, on parle parfois de laïcité inclusive, de laïcité stricte, de laïcité dure. Nous pensons que la laïcité est la laïcité point et qu'elle est abaissée quand on l'adjective.
Ok. Et c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est la définition stricte de la loi de 1905.
Alors l'idée pour nous, c'était justement d'aller au-delà des questions. Vous avez dit, on n'a pas un débat apaisé. Nous pensons que nous pouvons avoir un débat apaisé sur la laïcité et nous pensons que c'est un élément de cohésion nationale. C'est-à-dire que la laïcité ne doit plus pour nous être un sujet d'affrontement, de clivage, mais un sujet de débat profond qu'il ne faut pas éluder, mais un sujet surtout de cohésion. C'est ce qui nous permet de vivre tous dans une nation unie et pas dans une addition de communautés religieuses ou non religieuses.
Donne-nous quand même un exemple, comment ça marche, la laïcité, point.
Alors justement, dans ce livre, on a plusieurs chapitres, notamment sur les services publics ou sur la justice, sur l'école. Mais par exemple, pour ce qui me concerne plus particulièrement, sur les droits des femmes, je pense que la laïcité, c'est une garantie non suffisante à elle seule, mais essentielle et nécessaire de l'application des droits des femmes. Je vous donne un exemple. Dans des pays qui n'ont pas de séparation des églises et de l'État, qui n'ont pas de loi équivalente à la loi de 1905, vous pouvez avoir des radicaux religieux qui financent des hôpitaux et qui donc dictent leurs règles et empêchent par exemple l'accès pour des femmes à la contraception ou à l'IVG. Ça se voit dans des pays dans le monde.
Vous nous disiez juste avant d'entrer dans ce studio, Marlène Schiappa, que parfois les camps que l'on voit s'affronter en France s'auto-caricaturent eux-mêmes. Comment vous allez rapprocher ces points de vue? Est-ce que, Et c'était ma première question. Est-ce que ce n'est pas au chef de l'État à faire ce travail? Est-ce qu'il n'est pas attendu fortement sur un discours qui dirait peut-être aussi laïcité, point?
Vous savez, moi, je pense effectivement qu'on peut rapprocher et qu'on peut trouver des lignes de consensus sur la laïcité. J'ai organisé le 9 décembre, pour l'anniversaire de la loi de 1905, un grand débat au secrétariat d'État de l'égalité entre les femmes et les hommes avec une trentaine d'intervenants qui venaient de lignes parfois très différentes. Et on m'a dit, ton débat va tourner au pugilat, tu ne pourras pas l'organiser, les gens vont crier, s'insulter, etc. En fait, c'était un débat très profond, de haute tenue, extrêmement intéressant. Et on a trouvé des lignes de rassemblement de personnes qui arrivaient en pensant qu'elles étaient dans ces positions dites irréconciliables. Mais je crois vraiment que là encore, il faut sortir des débats de personnes et qu'il faut aller vraiment vers un débat plus en profondeur sur la laïcité.
Vous affirmez la liberté de croire et donc de manifester cette croyance d'une certaine
façon.
Bien évidemment. Est-ce que pour, par exemple, les sorties d'école, les femmes, les mères qui portent le foulard vont pouvoir le porter, y compris dans ces sorties?
Ça, vous savez, c'est un vrai débat qu'on n'a pas tranché là-dessus, puisqu'on a voulu proposer une ligne qui fasse consensus et donc on a laissé de côté des sujets qui ne faisait pas consensus au sein de différentes familles laïques, mais ça fait partie des sujets.
Vous écrivez quand même qu'a priori, il n'y aurait pas besoin de légiférer.
Alors nous, ce qu'on écrit là-dessus, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, installe un conseil des sages qui va rendre donc une ligne gouvernementale sur ce sujet. Nous, ce que nous écrivons là-dessus, c'est que le débat, en fait, il faut le dépassionner et le ramener au droit. Donc la question, c'est est-ce que ces mères sont là en tant qu'individus, en tant qu'adultes émancipés, qui ont parfaitement le droit d'être voilées et de manifester leur appartenance à une religion, ou est-ce qu'elles sont là en tant que collaboratrices ponctuelles de l'État, qui là devrait se soumettre à la neutralité religieuse de tous les agents publics. La véritable question, c'est une question de droit et elle est là.
Pardon d'insister, mais il n'y a pas eu de l'expression du chef de l'État, j'ai pas ma réponse hein, sur l'expression de Macron qu'on attendait.
Alors, il
était question d'un débat, d'un discours en décembre, puis d'un discours en janvier.
Le président de la République s'est exprimé sur la laïcité, notamment dans le cadre des vœux représentant des religions. Il a rappelé.
Pas de radicalisation.
Alors là, ce sont des propos rapportés, donc ne sais pas s'il les a tenus ou pas, je n'étais pas présente.
Il parlait de radicalisation.
Il a rappelé néanmoins que la République était laïque et qu'il n'y avait pas de débat à ce sujet et qu'elle garantissait aussi, bien sûr, le droit de croire ou de ne pas croire. Et le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, s'est exprimé sur France 2, dont on n'est pas couché, sur la laïcité. Et c'est lui qui porte la parole du gouvernement à ce sujet.
Marlène Schiappa, merci beaucoup, secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes, d'avoir accepté notre invitation. Un temps encore généralement nuageux, une nouvelle perturbation faiblement pluvieuse traverse le pays, va se décaler dans l'est vers l'est dans la journée. 6 à 13 un peu partout, jusqu'à 14 à 15 près de la Méditerranée. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal 18h, Aurélie Kiffer.